Émission géopolitique et histoire des humains. Aujourd'hui, une histoire de la laïcité.
Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Fréquence Mistral. L'émission d'aujourd'hui a pour but de vous éclairer sur les chemins historiques de la laïcité, et donc ceux des origines de la loi de 1905 et des débats actuels. Les origines politiques de la loi sont à chercher à la fois dans l'histoire politique mais aussi populaire de notre pays. Ce sont les combats pour la liberté. Mais ce combat n'est pas seulement franco-français, il est international et concerne toutes les religions révélées et tous les États et toutes les communautés. Il pose clairement la question de la liberté individuelle et de la relation de l'homme, de l'humain, avec la communauté, quelle que soit sa forme, traditionnelle, nationale, ou confessionnel.
Alors Serge, que veut dire déjà laïque ?
Alors le terme de laïque est très vague dans l'histoire, James. Et laïque, c'était ce qui est écarté du religieux au sens organisation. On peut être laïque et croyant. Les deux ne sont pas incompatibles, à une seule condition, que le temporel l'emporte sur le spirituel. En clair, que la loi des humains l'emporte sur une théocratie, un gouvernement religieux. C'est de nos jours le code civil et pénal contre l'inquisition ou son pendant musulman, la charia. Il est commun pour ceux qui combattent la laïcité de dire que c'est une spécificité française, avec pour preuve qu'il n'existe pas d'équivalent linguistique ailleurs. Pour signifier le laïc, les Anglais ou Espagnols prennent un vieux nom français de séculier, secular, secular. Les Italiens, secolare. En chinois, nous avons l'équivalent shi zu. On retrouve cette distinction dans la justice occidentale avant la Révolution française entre la justice des clercs et le bras séculier, la justice laïque. Ainsi, l'argument linguistique est faux, tant historiquement qu'au niveau linguistique. On entend parfois aussi le terme de laïcard pour qualifier ceux qui sont pour la laïcité, que certains portent fièrement, alors que pour les anti-laïcités, c'est une insulte. Notre société s'est laïcisée et le monde s'est sécularisé. C'est-à-dire que le religieux ne gouverne plus les destinées individuelles et collectives comme il y a encore peu de temps. Le Vatican, l'Iran, l'Arabie Saoudite sont des cas très particuliers. Ce qui ne veut pas dire que les religions ou spiritualités ne jouent plus de rôle, mais que leur primauté tend à se diluer dans des droits humains supérieurs. Liberté, égalité, fraternité, droits sociaux. Les taux de fécondité s'effondrent partout, malgré le soi-disant emprise du religieux. Pourtant, lors de la conférence des Nations Unies sur le développement des pays du tiers-monde au Caire en 1992, les trois religions, chrétiennes, musulmanes, et juifs s'étaient opposés à un contrôle des naissances au nom du dogme de croiser et multiplier, mais surtout car ceci voulait dire clairement des droits des femmes accrus. Les débats sur la laïcité sont pollués par des définitions qui n'auraient donc rien à voir avec la loi de 1905. La loi de 1905 concerne l'État, c'est-à-dire l'organisation politique qui préside aux destinées d'une société et exerce au nom des citoyens les pouvoirs souverains. Elle ne concerne que tous les services publics sous contrôle de l'État, nationaux et territoriaux. En France, un citoyen, une citoyenne, peut vivre sa foi ou non, et même en changer comme il l'entend, à condition de respecter les autres citoyens et de ne pas contrevenir à la loi et à la sécurité. Ceci est inscrit clairement dans toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen depuis 1789 et dans les déclarations des Nations Unies de 1948. Le reste n'est que spéculation politique ou exploitation politicienne de l'extrême droite ou des extrémistes religieux, quels qu'ils soient. J'ai le droit en France de critiquer une religion et de caricaturer. Le délit ou crime de blasphème n'existe pas. J'ai le droit de porter le voile, une kippa et d'être moine bouddhiste. Aucune loi ne m'en empêche. Ce qui est pitoyable à l'heure actuelle, c'est que des politiques se servent de la religion pour faire des voix dans des élections locales et nationales, contre les principes de la loi de 1905, mais aussi contre l'esprit de cette loi. La laïcité n'est pas contre la foi, elle est contre l'intolérance des extrémistes religieux et son influence sur les décisions de l'État républicain et d'une municipalité qui représente aussi la République. Seule la loi fixe les limites à ceux qui pensent ne pas en avoir, car ils parleraient au nom d'un livre religieux ou de leur interprétation de ce livre. Je peux être donc musulman et pleinement français. Nous vivons dans un État ouvert et non fermé comme tant d'autres.
Quelle est l'origine d'une séparation de la religion et de l'État ?
Les monarchies de droit divin étaient toutes établies sur une alliance avec la religion, quelles que soient les civilisations et les pays. Le grand combat était qui dominait le pouvoir religieux, le pouvoir temporel ou le pouvoir religieux. En Occident, les rois ou le pape. La victoire revient aux rois comme en France ou en Angleterre. L'origine d'une séparation de l'Église de l'État est philosophiquement et politiquement entrée dans notre histoire au XVIIe-XVIIIe siècle, après les guerres de religion et contre aussi la monarchie absolutiste. Trois questions guidaient les penseurs de ce siècle de lumière. 1. La liberté de penser. 2. La justice sans le fanatisme religieux. Et 3. L'éducation scientifique et philosophique libérée des interdits théocratiques. C'est donc une idée très jeune à l'échelle de l'humanité, comme la démocratie. Et cette idée était partagée à la fois par Spinoza et Diderot. Ce n'est qu'avec Jean-Jacques Rousseau que la nature de l'État passe dans la pensée philosophique du divin à la souveraineté du peuple. Il est le véritable inventeur de la démocratie actuelle. Tous les philosophes des Lumières restent déistes, c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu. Cette période est marquée par la naissance et le développement de la franc-maçonnerie dont font partie nombre de philosophes et acteurs politiques de cette époque tels Lafayette, Voltaire, Benjamin Franklin ou Condorcet. Elle est aussi marquée par une censure ecclésiastique, des écrits des philosophes tant chez les catholiques que chez les protestants. Les philosophes ne doivent leur salut qu'à des protecteurs aristocratiques ou royaux tels Frédéric II de Prusse, Catherine de Russie et Madame de Pompadour, la grande maîtresse du roi Louis XV. À l'époque, un protestant comme un juif ne peuvent être sujets du roi de France, sauf dans la province d'Alsace qui a un statut particulier. Mais là encore, les juifs doivent quitter la ville par la ville de Strasbourg par la rue des Juifs au son d'une cloche de la cathédrale. Le roi est de droit divin et ses sujets doivent avoir la même confession que lui, telle est la règle. Depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV au nom de l'harmonie du royaume en 1685, telle était aussi la règle depuis la fin de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle et le traité de Westphalie dans toute l'Europe en 1648. La Révolution française en 1789 met fin à la relation exclusive d'une religion avec un pays. L'État se sécularise, se laïcise. Le roi perd son caractère divin. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose la laïcisation de la France. Ce qui définit le droit et le citoyen n'est plus la religion, mais les principes de la raison. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est une rupture politique majeure, sociale aussi, de notre histoire, qui a conduit à la nationalisation des biens du clergé, à l'état civil, la justice rendue au nom du peuple français, le mariage civil et le droit au divorce avec consentement, l'égalité des droits des citoyens et surtout l'entrée dans la nation des citoyens d'autres confessions. Ainsi, un citoyen français, à partir de 1789, pouvait être protestant, juif, voire musulman dans les troupes de Napoléon par la suite. Les religions, sont, comme les nobles, perdent donc leurs droits sur l'exercice de l'État et sur les droits des citoyens. Les églises, qui catholiques en France mais aussi protestantes en Europe, avaient marqué le siècle des Lumières par leur conservatisme et leur intolérance par la censure, l'inquisition, l'autodafé, mais surtout par un soutien à une société d'ordre inégalitaire, sont renversées par la révolution de 1789. N'oublions pas que cette révolution est très populaire dans toute l'Europe. La France et l'Europe entrent ainsi dans la sécularisation du droit après les États-Unis d'Amérique et leur déesse fondatrice Columbia. La Première République, à partir de 1792, renforce et conforte le processus, notamment par le nouveau calendrier républicain, mais aussi par le projet porté par le philosophe Condorcet d'un enseignement primaire laïque et gratuit pour les filles et les garçons, et la fin des universités qui étaient alors dominées par les religieux, et qui seront donc remplacées par des écoles professionnelles et les grandes écoles. La République écrit une seconde déclaration des droits de l'homme et du citoyen plus sociale, inscrit ainsi un droit à la retraite et à la sécurité sociale. Maximilien Robespierre a initié un mouvement ultra-laïque par le culte de l'être suprême et de la raison censé remplacer le christianisme. Mais à vrai dire, ce fut un véritable échec. La Première République signe une première séparation de l'Église et de l'État en 1795. Ceci a pour conséquence une fracture et une guerre civile en France et en Europe entre partisans et opposants à la Révolution, guidée et soutenue par la papauté et les autres monarchies. Il y a aussi une fracture dans l'Église catholique entre partisans de la monarchie et prêtres jurés partisans de la Révolution. En clair, c'est comme un combat entre Marianne et Marie. Napoléon Ier, quant à lui, revient sur ses applications pour soi-disant une paix intérieure, mais surtout à son propre bénéfice, en instituant le concordat de 1801 pour les catholiques, puis pour les protestants, puis pour les juifs à partir de 1806. Les religieux deviennent par ce concordat des fonctionnaires de l'État, au service du pouvoir civil. Une prière pour l'empereur et sa famille est obligatoire dans toutes ces religions. L'Empire rompt donc avec la Révolution et la République. C'est l'alliance des religions avec l'aide impériale. Après Waterloo et pendant la Restauration à partir de 1815, la Sainte Alliance, issue du Congrès de Vienne, revient sur la quasi-totalité des avancées révolutionnaires. Plus de droits de l'homme, plus de république, plus de démocratie, c'est l'alliance des couronnes légitimistes et de la croix. Toute idée libérale est combattue, et comme les idées sociales, reste le caractère sécularisé des lois et de certains droits. Ainsi, dans les États allemands, on permet donc à des catholiques de vivre dans des États protestants et inversement. Nous allons maintenant écouter Brassens, la messe du pendu.
Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique. Que cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Quand la foule qui se déchaîne pendit un homme au bout d'un chêne, sans forme aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort. Puis on le vit, étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier et qui prodiguait les hosties, le pain béni, l'eucharistie aux petits oiseaux du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches et plein d'une sainte colère, il partit comme à l'offensive dire une grand-messe exclusive à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence quand cette triste circonstance l'hommage sacré fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ bonne aubaine pour le touriste était jouée par un pendu. Et maintenant, quand on croit à ce nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie à bas la calotte, à s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticléricofanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, quand vous vous coinfrerez un plat de cureton, je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là.
Serge, dis-moi, pourquoi une loi en 1905 en France ?
Pourquoi est-ce qu'en 1905, des députés décident de voter une loi de séparation de l'Église et de l'État ? On va commencer en 1848. La Révolution française et le printemps des peuples européens qui suivent cette révolution relancent les idées libérales, démocratiques, mais aussi sociales, jusque-là circonscrites à la culture romanesque. Je vous renvoie au célèbre roman « Les Misérables » de Victor Hugo. La Deuxième République inscrit la fraternité dans la devise républicaine, en même temps qu'elle abolit l'esclavage définitivement par les décrets de Victor Schœlcher. De 1848 à 1905, chers auditeurs, il n'y a que 57 ans, c'est-à-dire rien à l'échelle d'une vie, même au XIXe siècle. Les hommes de 1905 ont clairement conscience des débats et faits qui ont agité la France depuis 1848, quand ils n'ont pas été eux-mêmes acteurs ou spectateurs directs. Philosophiquement, le temps est marqué par des courants de pensée issus des grands événements et changements économiques et sociaux dus aux révolutions industrielles et politiques du XIXe siècle. Le marxisme est né de l'échec de la révolution sociale de 1848 et du fait que les ouvriers qui s'étaient révoltés à partir de juin 1848 avaient été soit fusillés, soit déportés, notamment vers l'Algérie. Avec quelques idées comme la dictature du prolétariat, le socialisme ou la religion et l'opium du peuple. Voilà comment Karl Marx et Engels décrivaient en fait ce que devait être le marxisme. À côté se développe un républicanisme qui n'était plus véritablement de mise depuis 1799, mais aussi un positivisme, un scientisme, et tout sur le fond de libéralisme politique et social et de la nécessaire démocratisation des sociétés. À partir du coup d'État de Napoléon III, dont les Basalpins sont les dignes contre-attaquants, puisqu'ils se sont révoltés ici, ils ont réussi à battre une petite armée napoléonienne du côté des Mets, eh bien, ce second empire qui naît dans le sang, républicain, ou par la déportation de ces mêmes dits républicains basalpins vers toujours l'Algérie, puisque c'est là-bas qu'on envoie les méchants, les mécréants et compagnie, les mauvais républicains.
Relire l'homme semence,
par la même occasion. Donc, de ce second empire de Napoléon III a appuyé sa légitimité sur l'Église. Quand nous nous baladons maintenant à Marseille, nous regardons la Major, nous regardons Notre-Dame de la Garde, et nous sommes ébahis par la beauté de ces sites. Seulement, ne nous trompons pas, ce site n'est pas là pour rien, ce site est bien là pour montrer qui doit régner sur la ville de Marseille. Ce qui doit régner sur la ville de Marseille, ce n'est pas le rouge, ce n'est pas le social, c'est la Vierge. Nous assistons à une réévangélisation dans toutes les communes jugées non chrétiennes. Je vous invite à vous balader du côté de Maine, du côté de Forcalquier, un peu dans tous nos villages, et pas seulement ici en Provence, mais aussi dans d'autres régions de France, dans d'autres départements, où Napoléon III n'a cessé de construire des églises, dans des communes qui n'en avaient pas, et où ils ont érigé des croix de mission, puisqu'à l'époque, on envoyait des missionnaires dans les départements français, histoire de bien réévangéliser tous ces petits pauvres qui devaient bien connaître leur peine au lieu de se tourner vers le socialisme. Il y a une alliance de l'Empire et des églises, notamment percotique, mais pas que, par l'application de la loi Falloux en 1850 qui donne un pouvoir des religieux sur l'enseignement public. Enseignement public qui est réservé, je le rappelle, à une élite. Les gavroches, c'est-à-dire les petits qui travaillent dès leur plus jeune âge, dès 6 ans, jusqu'à leur mort, eux n'ont pas le droit à l'éducation publique. À ceci, le courant catholique mené à la cour par l'impératrice Eugénie souhaite une morale dictée par le pape et l'église sous les auspices du Sacré-Cœur de Jésus et le retour à un culte marial. Ce qui conduit à un soutien impérial aux états du pape contre l'unification italienne qu'elle avait pourtant aidée contre l'Empire d'Autriche. Avec son plein soutien, la révolution industrielle substitue au paternalisme aristocratique sur les peuples le paternalisme patronal qui, dans les corons, construit et finance l'église pour mieux contrôler les ouailles tentées par le rouge. La commune de 1871 ne s'oppose pas à la croyance mais établit une stricte séparation de l'église et de l'état. Le 2 avril, la Commune de Paris, sa constitution nationalise les biens du clergé, ne finance plus et ne se sépare de toute église. Édouard Vallard, alors conseiller municipal dans le 20e arrondissement de Paris, crée pour la première fois une école primaire gratuite, laïque et obligatoire et fait enlever les crucifix des écoles communales. En mai 1871, Thiers, soutenu par Otto Bismarck, réprime la commune, soit 34 ans avant 1905, et instaure un ordre moral encadré par les religions, notamment catholiques. Le même Bismarck, au retour victorieux dans son nouveau Reich, sécularise le mariage et soumet les catholiques jugés potentiellement anti-prussiens par sa politique de contrôle et de laïcisation de l'État impérial qu'il nomme le Kulturkampf. L'Église catholique en France, à partir de 1871, fait construire le Sacré-Cœur dès 1873 pour expier les fautes révolutionnaires communardes de Paris. La même année sont interdits le 14 juillet le buste de Marianne dans les mairies républicaines et Mac Mahon, celui qui a maté la commune et président de la République. L'Assemblée nationale est alors composée principalement de monarchistes, légitimistes, orléanistes et encore les bonapartistes. Les républicains sont une minorité agissante, mais une minorité. Cependant, ce retour moral ne convient pas à la population. Les élections de 1876 donnent une nette majorité de voix et de députés aux républicains. 360 contre 280 monarchistes. Vous voyez que c'est quand même assez ténu. Donc le combat des laïcs reprend. À partir de 1879 jusqu'en 1885, c'est ce qu'on pourrait appeler l'affirmation de la République et sa laïcisation. Jules Ferry, celui qui œuvre le plus résolument pour cette laïcisation, par sa loi de 1881-82, ses lois plutôt, d'école primaire laïque obligatoire et gratuite pour les filles et les garçons, en échange d'une demi-journée le jeudi pour le catéchisme et 3 mois de vacances scolaires d'été pour convenir aux familles de paysans. Je rappelle qu'à l'époque, les récoltes, c'était aussi une affaire d'enfants et que les paysans n'ont accepté cette école pour leurs enfants qu'à cette condition. Mais mise en avant, il y a notamment une mise en avant des sciences nouvelles et des idées et valeurs républicaines. La mixité dans les écoles primaires n'est toujours pas à l'ordre du jour, ce qui fait que souvent, vous le voyez encore dans certaines écoles communales, vous avez une entrée des filles, une entrée des garçons, ou une école des filles, une école des garçons. C'est encore des traces de cette non-mixité que réclamaient à tort et à cri donc les religieux et les croyants de l'époque. En 1884, voit la suppression de la prière avant les sessions parlementaires. On ne s'imagine pas ça aujourd'hui, vous imaginez les parlementaires qui feraient une prière. Et le rétablissement du divorce, mais attention, un divorce qui est pour faute. Le divorce avec consentement, il faudra attendre les années 1970, 71, c'est 1900 exact, pour que le consentement mutuel soit à nouveau la mise en France. Donc cette suppression de la prière, 5 ans après l'absorption définitive de la Marseillaise comme hymne national et républicain par les députés et le président de la République de l'époque, Jules Grévy. Je note à ce sujet que la Marseillaise était considérée par les monarchistes et les courants très conservateurs comme trop laïque, et voire même blasphématoire. Donc on a des traces de cette catégorisation de la Marseillaise comme chant blasphématoire dans les archives du Parlement. Suit à ça, après 1895, une phase de déchristianisation des établissements publics. On enlève les crucifix dans les palais de justice, les hôpitaux, les mairies, les écoles, les lycées. Tous ces établissements sont donc déchristianisés. Sans susciter de débat, puisque cela est en phase avec l'esprit de la population française. Mais attention, l'Église catholique réclame régulièrement son pouvoir de contrôle sur l'enseignement et les consciences, voire condamne la République, la diabolique et la satanique Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi 1905 est donc plus un aboutissement d'un processus largement approuvé par une population française, elle-même déchristianisée, si ce n'est dans la pratique, notamment dans les grandes villes et les banlieues, du moins dans les applications des dogmes. Je m'explique. Je peux baptiser, et les Français vont continuer à baptiser leurs enfants, je peux les envoyer dans une communion, je peux même me marier à l'église, il n'empêche qu'une partie des hommes n'ira plus à l'église et, en envoyant généralement leurs femmes prier pour l'ensemble de la famille. Mais même au niveau des femmes, vous avez de fortes réticences à aller de temps en temps à l'église. Pourquoi ? Parce que l'église est à ce moment-là très rigoriste. Hein. La culture n'est pas véritablement à l'ouverture, et à la tolérance. Donc on a aussi des clivages entre, dans le monde paysan, entre les paysans qui ne possèdent pas et les religieux qui possèdent. Bien que les biens du clergé aient été nationalisés, un certain nombre de congrégations ecclésiastiques ont pu racheter leurs biens parce qu'ils étaient suffisamment riches avec les deniers du culte, ce qui fait qu'ils possèdent encore beaucoup de terres. Et quand vous êtes un paysan et que vous ne possédez pas la terre, bah, votre ennemi, c'est plus tellement le noble, c'est le curé ou l'abbaye qui vous empêche de travailler librement sur votre terre, voire même qui vous tiennent à ferme, c'est-à-dire que vous devenez leurs obligés en travaillant leur terre à eux. Donc, vous avez donc tous des débats, hein, des débats très vifs hein, que l'on voit dans la presse. Alors, bien sûr, on a des tendances très laïcarnes, mais vous avez aussi des tendances très, très intégristes catholiques. Hein, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour la France, et ces immondes droits de l'homiste qui empêchent donc Marie de régner à nouveau sur le territoire. Vous avez des maires radicaux, par exemple, comme le maire de Manosque dans les années 1895, qui fera débaptiser tous les noms des saints que vous aviez sur les rues, qui rebaptisera ben, rue Voltaire, rue Robespierre, rue Jean-Jacques Rousseau. Ça date de cette époque-là. Voilà. Alors, et donc, eh ben, 1905, qu'est-ce qui se passe ? Ben, oui, vous avez effectivement un grand clivage entre... Alors maintenant, c'est très facile de dire oui, mais à l'époque, les députés étaient très laïcards, ils étaient très très méchants, ils n'étaient pas tolérants. Écoutez, hein, moi, je me mets à la place d'un homme qui a vécu la commune ou qui était un peu socialiste et à qui l'Église disait « c'est blasphématoire, tu es impie, tu ne seras pas autorisé à être enterré religieusement ». Et vous imaginez que cet homme-là va être gentil avec quelqu'un qui l'a mis au banc de la société à laquelle il appartenait. Ah ben, à un moment donné, vous êtes fâché contre ceux qui vous empêchent de vivre librement. Donc, c'est le cas notamment de Clémenceau. Clémenceau, le père la victoire, hein, comme on l'a nommé après 14-18, eh ben Clémenceau, c'est un pourfendeur du curé. Lui, il veut une laïcisation complète de la société. Et il le veut d'autant plus que lui, il a été Dreyfusard et qu'il a bien vu aussi le rôle qu'a joué l'Église catholique dans ce combat contre Dreyfus, ce juif qui avait, n'est-ce pas, alsacien, juif, enfin, il n'était pas bien sur tous les rapports pour une frange de la population de droite et qu'on qualifierait maintenant d'extrême droite. Et donc cet homme-là, ben, Clémenceau, il a été quand même le grand défenseur de Dreyfus et de l'idée de la laïcité. Et la solution Aristide Briand, Jean Jaurès, c'est la solution qui a été adoptée par les députés. Pourquoi ? Parce que les députés se sont bien rendus compte en 1905 qu'aller trop loin, on allait vers une guerre religieuse qui était interminable, et ne pas aller trop loin, ben c'était aussi ne pas circonvenir à la population française telle qu'elle est. Je rappelle, en 1905, nous sommes en pleine belle époque, il y a des problèmes sociaux, il y a un développement économique et social, les gens ne se tournent plus véritablement vers l'église, ils vont plutôt faire vers les balles, vers une autre type de société, le French Cancan, le Moulin Rouge, ce que vous voulez, mais ils ne sont plus véritablement dans le catholicisme intégral. Donc ils se sont dit, ben voilà, on n'a qu'à prendre un tout petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, les églises ne seront plus liées de façon organique à l'État, et l'État ne sera plus lié de façon organique aux églises, mais en échange de quoi ? Le ministre de l'Intérieur, y compris actuel, est aussi ministre des cultes. C'est-à-dire que tous les cultes sont acceptés, à condition, notez bien, de respecter les lois de la République. De respecter les lois de la République, ni plus, ni moins.
Et alors, après 1905, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, après 1905, on a un clivage. On a la France métropolitaine et puis on a le reste, c'est-à-dire le domaine colonial français. La loi n'est pas appliquée dans l'Empire colonial. Bah, et pour cause, l'Empire colonial s'appuie principalement sur les religions. Elle s'appuie sur l'Église catholique en Océanie, en Afrique noire, en Afrique du Nord aussi, en Indochine. Ainsi, les prêtres maristes ou les pères blancs ne sont pas touchés par les lois concernant la nationalisation des biens des congrégations. L'Algérie française, pourtant parsemée de loges maçonniques, est très républicaine, hein, sociale, n'est pas touché par la loi de 1905. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas s'aliéner les musulmans qui assurent la justice cadiale et à qui la République finance, écoutez-moi bien, pèlerinage à la Mecque, construction de mosquées en échange d'un soutien politique des autochtones à la colonisation. Il en va de même en Afrique occidentale française, c'est-à-dire grosso modo le Sénégal, le Mali, et puis l'Afrique équatoriale française aussi, l'Indochine, la Guyane. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, elles n'appliquent le décret qu'à partir de 1911, c'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité encore de changer. La Grande Guerre 14-18 met fin à ce conflit, au nom des progrès, mais aussi de l'Union sacrée. Là, on n'a pas trop le choix. Les Allemands nous ont envahis, et il faut donc une Union sacrée et remporter la guerre. Donc, les troupes, d'accord, sont donc, ont toutes les confessions. Et ça, vous pouvez le voir dans les cimetières militaires. Vous avez des tombes musulmanes qui côtoient des tombes chrétiennes, juives ou autres, aussi hindouistes, sans cependant de carré spécifique. D'accord, il n'y a pas de carré musulman, il n'y a pas de carré chrétien, il n'y a pas de carré juif, tout le monde est mélangé. Vous avez, durant toutes les guerres où la France a participé, vous avez à chaque fois des aumôniers militaires qui sont des pasteurs protestants, des rabbins, des imams, des curés catholiques, qui viennent, y compris aujourd'hui, parler, réconforter nos soldats qui risquent leur peau à l'autre bout du monde, pendant que nous sommes tranquillement chez nous en train de regarder la télévision. En 1918, donc après la victoire, bien que le tigre anticlérical Clémenceau soit le président du Conseil, eh bien l'Alsace-Moselle réunie à la France ne sont pas touchés par la loi de 1905. Au nom de quoi ? Au nom de quoi est-ce que l'Alsace et la Moselle ne sont pas touchés ? Eh bien, l'Alsace-Moselle ne nous attendait pas. Il y a même eu une crise autonomiste, voire même quasiment indépendantiste à partir de 1921. Et les Alsaciens et le gouvernement de la République s'est dit on va laisser le concordat à ces deux départements. On ne va pas rentrer dans une guerre religieuse là. Il y a d'autres choses à penser. D'autant plus que parler de laïcité au moment même où la papauté a canonisé Jeanne d'Arc et où un culte de Jeanne d'Arc est rendu par toutes les composantes politiques de la République française, c'est-à-dire tant à gauche qu'à droite, tout le monde adore Jeanne d'Arc à l'époque, il n'est pas temps de faire de la laïcité à ce point. Je rappelle quand même, alors que les femmes allemandes, américaines, britanniques et turques reçoivent le droit de vote dans les années 20, la femme française se la voit refuser, car trop pratiquante par un courant sénatorial, très anticlérical et conformiste. Pour les sénateurs, il faut faire des enfants après l'hécatombe et redonner du travail aux soldats. Donc les femmes doivent retourner au fourneau. Il est hors de question de leur donner à ce moment-là un droit de vote. Le Front populaire aura 3 secrétaires d'État femmes, mais elles n'auront toujours pas le droit de vote. Entre 1940 et 1944, donc sous le régime de Pétain et la collaboration de son régime avec les nazis, vous avez des projets, multiples projets soutenus par l'Église catholique de revenir sur la loi 1905. Et toutes ont avorté sous la pression 1 des préfets, qui ont dit c'est peut-être pas le moment, de certains ministres, et même par l'occupant qui ne souhaitait pas ajouter un conflit religieux à un autre. Il n'en demeure pas moins que la politique antisémite de Vichy, relayée par l'Église catholique, remet cruellement en question les principes républicains, l'esprit et l'application de la loi 1905. Cependant, cette politique française n'était pas la France, comme le soulignait De Gaulle, et nombre de prêtres ont rejoint la résistance. Notez bien que l'évêque de Paris, quand De Gaulle a assisté à la messe de libération, l'évêque de Paris n'a pas été autorisé à officier. Hein. De Gaulle et Leclerc qui étaient à côté, ils ont dit non, pas lui. Hein, vu ce qu'il a fait pendant la période, il est interdit d'officier devant le général De Gaulle et ceux qui avaient libéré la capitale. Après la Libération, les 4e et 5e Républiques inscrivent la laïcité dans la Constitution, sans que cela ne trouble plus les Français se disant catholiques. L'Église catholique doit reconstruire son image et devient plus sociale, à l'image de l'abbé Pierre, résistant du Vercors devenu député de 1945 à 1951. La pratique religieuse s'effondre au son des yéyés à partir de 1965.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé la hugue de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur.
Et aujourd'hui, Serge, comment va la laïcité en France ?
Aujourd'hui, en 1905, la laïcité va bien. Bon, elle n'est toujours pas appliquée dans les pays d'outre-mer du Pacifique, Nouméa, Tahiti. Elle n'est pas appliquée non plus en Alsace et en Moselle, pas appliquée en Guyane, elle n'est pas appliquée à Mayotte. Vous avez, dans chacun de ces cas, des prêtres, des diacres qui viennent officier dans les établissements scolaires des cours de religion. Quand j'étais encore en Alsace, enseignant en Alsace, on avait des imams, des prêtres, des rabbins qui venaient de façon régulière donner des cours de religion dans les écoles. Et nous, à côté, pour ceux qui se disaient laïcs, puisqu'il fallait dire je n'appartiens à aucune religion, c'était sur le dossier d'inscription de votre enfant, c'est ce qu'il fallait marquer. Lui, il allait avec moi en tant que professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique. Il allait avec moi en cours, alors que d'autres de la même classe allaient avec l'imam, avec le curé, avec le diacre, avec le pasteur, suivre des cours de morale religieuse. N'exagérons pas, c'est de la morale religieuse. C'est pas des cours de religion au sens où on l'entend dans un catéchisme quel qu'il soit. Pour ça, il y avait encore des heures de catéchisme à côté. Qu'est-ce qui se passe ? La France est le pays où vous avez le plus d'athées dans le monde. On est 45% de la population française à être athée, même si dans les autres, vous avez 50% de la population qui se dit encore catholique. Dans ces 50% qui se dit encore catholique, il y a grosso modo 4% de pratiquants réels. Et encore, ces catholiques-là, il faut encore que je compte les 15% de protestants dans les chrétiens. Et parmi ces protestants, il y a des luthériens, il y a des calvinistes, il y a des évangélistes de tendance américaine qui viennent en force en ce moment sur le territoire français. Du côté musulman, c'est pareil. Il n'y a pas qu'un islam, il y a une multitude d'islam. Vous avez, dans le sunnisme, vous avez le soufisme, vous avez le mouridisme plutôt africain. Vous avez les tendances. C'est un peu comme chez les chrétiens, il y a des tendances. Les orthodoxes, c'est pas pareil que les orthodoxes grecs ne sont pas pareils que les orthodoxes russes. Bref, donc on a une multiplicité de ces religion, et la religion musulmane concerne environ 4 millions de personnes sur notre territoire et pas plus. Il n'y a pas de renversement de tendance. Bien sûr, on peut me dire, oui, mais M. Tizi, comment il y a quand même un calendrier républicain ? Il y a quand même un calendrier chrétien. On est quand même un pays d'origine chrétienne. Notre calendrier, il est aussi un peu romain. Le mois d'août, c'est en nom d'Auguste, hein, le premier empereur romain. Juillet, c'est le nom de Julius, de la famille Julius, donc celle de Jules César. Donc voilà, Noël. Bon, là, on va fêter Noël. C'est très bien, quelle fête païenne. Hein, un sapin de Noël, ça vient des païens alsaciens, ça. Les boules ont été créées en Alsace. D'accord, les boules de Noël. Donc voilà. Oui, je sais à quoi tu penses. C'est pas de celle-là dont il s'agit. Non, mais arrêtons. Nous sommes dans un pays multiculturel, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui habitent dans le Nord qui ont. Voilà, jusque dans 1945, même Noël ne se fêtait pas de la même façon. On n'offrait pas les cadeaux au même moment. Dans le Nord de la France, vous offriez les cadeaux à la Saint-Nicolas. Dans le Sud de la France, on offrait plutôt les cadeaux en janvier. Donc, lors de l'Épiphanie, cette histoire de Noël chrétien, bien sûr que le Noël est chrétien, mais le Noël est maintenant partagé. Vous avez, à travers tout le monde, fait ce qu'il veut. On n'est pas véritablement là de façon uniformément religieuse. Le retour à une question laïque dans le débat français s'inscrit dans une crise que je dirais plutôt de la République, de la société, mais aussi du niveau intellectuel indigent que nous avons à l'heure actuelle. Hein. N'en déplaise à Zemmour et à ses partisans, l'islam, pour parler de cette religion, puisque c'est celle qui semble lui faire le plus peur, l'islam fait partie de notre histoire depuis au moins 1830 et la conquête de l'Algérie. Vous avez des troupes musulmanes dans les armées françaises depuis 1830. La conquête de l'Algérie n'aurait jamais pu se faire si on n'avait pas eu à nos côtés d'autres musulmans qui combattent à nos côtés. C'est pas possible. Et toutes nos victoires que nous avons eues, nous les devons aussi à des musulmans, à des gens qui ne partageaient pas la religion catholique, comme on le doit aussi à des juifs, à des protestants, qui n'étaient quand même pas considérés comme français avant la Révolution française, mais je ne reviendrai pas dessus. Donc, nous sommes dans une crise de la République et de la société, et parfois, cette crise de la République et de la société, elle se sert de la laïcité. C'est vrai qu'il y a, depuis 30 ans, un retour à des formes visibles de religiosité. Religiosité qu'on voyait plus trop dans les années 60, 70, 50, 60, 70. Pourquoi ? Parce que les gens avaient un peu oublié tout ça. Et puis, comme le dit la chanson d'Eddie Mitchell, hein, pas de boogie-boogie avant votre prière du soir, il y avait d'autres choses à penser. Ces retours à la religiosité, nous la voyons chez les juifs par le kasher, le port de la kippa, chez les musulmans par le fait de manger halal, par le voile qui revient, alors qu'il y a 30 ans, on n'en voyait quasiment pas. Il revient chez les chrétiens aussi, chez les catholiques, avec les JMJ, hein, le culte de Jean-Paul II, « France, es-tu encore fille aînée de l'Église ?» ou les irruptions évangélistes américaines. Il y a une influence à l'heure actuelle de quête spirituelle. Pensons au yoga. Moi, je veux bien, le yoga, hein, mais le yoga, c'est une quête spirituelle. C'est lié à l'hindouisme. Vous avez de plus en plus de compatriotes, si on parle des Français, qui sont intéressés par les philosophies bouddhistes, taoïstes, voire la franc-maçonnerie. Ce retour est dû à plusieurs facteurs. Vous avez une incapacité à sortir de la crise économique et sociale politiquement. Donc, quand vous n'avez plus le choix, quand les politiques ne vous donnent plus le choix que du blablabla et aucune solution, qu'est-ce que vous voulez ? Vous tournez parfois vers Dieu, puisqu'il ne vous reste plus que ça. Avant, ils se tournaient vers Staline. On peut se tourner vers Dieu. Vous avez une perte de sens collectif et individuel dans une société de plus en plus inégalitaire et anxiogène. On nous fait peur avec tout. On nous fait peur, bientôt c'est la fin du monde. Vous avez un ancien ministre, Yves Cochet, qui nous dit dans 30 ans, dans 25 ans, de 8 milliards, on va passer à 4 milliards. Comment est-ce que ça va être possible ? On n'en sait rien. On va tous mourir parce qu'on a le réchauffement climatique. Et c'est pas que je suis climato-sceptique, je suis tout à fait d'accord pour faire des efforts. Je trouve qu'il faudrait en faire plus. Mais quand même, on est quand même dans un climat de peur qu'on n'a jamais vécu auparavant ici. Ensuite, on a aussi des phénomènes de ghettoisation et d'abandon des plus pauvres de nos concitoyens, notamment les musulmans dans les quartiers. On les laisse, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien, la poste ne passe plus. Bien sûr, on va me dire, oui, mais bon, quand on y arrive, il y a les gens qui jettent des pavés. Oui, c'est sûr. Mais il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que des gens jettent des pavés tout le temps. Voilà, il y a quand même des causes qu'il faut traiter. Donc, et ensuite, vous avez une quête de spiritualité et d'harmonie personnelle, collective, que ne procurent plus ni les associations, ni les partis politiques. C'est-à-dire que les gens, ils veulent plus faire des réunions le soir pour rêver d'un autre monde. Et que l'homme politique, une fois qu'il aura été élu, paf, il vous fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis et de ce que vous aviez décidé communément. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que certains aillent vers des quêtes plus spirituelles. Et que dire quand un président de la République, comme Nicolas Sarkozy, dit que le prêtre est supérieur à l'instituteur en valeur? Enfin, c'est quelque chose que jamais ni De Gaulle, ni Jacques Chirac, ni aucun président n'aurait dit auparavant. Que dire quand une partie de la gauche confond lutte contre le racisme et soutien à des intégristes religieux? Jamais on n'aurait vu ça sous Léon Blum, sous Mitterrand, sous Georges Marchais, sous personne. Personne n'aurait osé faire un truc pareil. Et la place d'une crèche. Mais la place d'une crèche n'a rien à faire dans une mairie. On n'a jamais vu de crèche dans les mairies. C'est les conservateurs qui mettent les crèches dans une mairie. Que la crèche soit en extérieur sur une place ou dans une église, c'est pas pareil. La mairie, c'est un lieu éminemment républicain. Et dans la mairie, ne peuvent trôner que Marianne. Et les drapeaux. Drapeau français, drapeau européen, voilà. Au lieu d'un débat sur la société réelle ou de politique internationale réellement intelligent, les médias, le quatrième pouvoir, jettent la laïcité en pâture dans des débats plus ou moins nauséabonds sur l'islam et le terrorisme. C'est un marronnier de la presse depuis 30 ans. Un élu fait le buzz en clon au pilori une mère avec un voile au nom de la laïcité, sans que personne ne lui dise qu'il a tort. Quel a le droit d'assister voilé à une réunion du conseil général, régional ou municipal? Personne ne se pose la question pourquoi cette femme porte le voile et comment des enfants français deviennent djihadistes en Syrie. Jamais il n'y a de remise en question des hommes et mouvements religieux qui obligent, ici en France ou ailleurs sur le web, les femmes à se soumettre à des lois pseudo-théologiques que je qualifierais, moi, de phallocratiques. Avez-vous entendu au pays de Voltaire et de Simone de Beauvoir une quelconque condamnation aussi vive contre des pro-vie, c'est-à-dire des anti-avortements et anti-contraception chrétiens, de la part de l'extrême droite ou d'une certaine droite? Non, jamais. Comme au temps de Simone Veil et de sa loi sur l'IVG, qui est due au soutien des députés socialistes. Certains de son parti l'ont accusé, mais vous n'imaginez pas, hein, elle avait commis, elle, un génocide. Hein, une femme qui avait quand même connu Auschwitz, il faut quand même le faire. Vous avez même une complaisance avec un certain machisme nord-africain de bars strictement masculins. C'est culturel chez nous aussi, les bars sans femmes, disait le candidat socialiste Benoît Hamon. Ben disons, la Madelon de nos poilus devait être transgenre alors. Et Mitterrand et Rocard ont dû se retourner dans leur tombe. À qui profitent ces divisions et ces reniements orchestrés? Vous croyez vraiment que ça profite à ceux qui triment pour s'en sortir et donc à leurs légitimes droits sociaux? Vous croyez vraiment que ça profite aux droits des femmes? Certainement pas à la justice économique et sociale et politique à laquelle a droit l'humanité.
Y a-t-il une globalisation de la laïcité, Serge?
Beaucoup d'États sont devenus au cours du XXe siècle laïques dans leur forme et ont des sociétés sécularisées. Le Mexique était très laïque au XIXe siècle et jusqu'en 1945. Les églises ont été transformées en locaux syndicaux. La Chine communiste sous Mao était athéiste. Elle reconnaît maintenant les religions comme quand elles obéissent au pouvoir central. Faites attention, il y a quand même 1 million d'Ouïghours, c'est-à-dire des tribus turkmènes musulmanes du nord-ouest de la Chine, qui sont actuellement en prison. Je peux être britannique et avoir comme une reine d'Angleterre qui est aussi chef spirituel de l'anglicanisme, c'est-à-dire du protestantisme anglais. Les pays musulmans sont dans une lutte entre séculier et théocratique. La Nada, c'est-à-dire la Renaissance arabe du XIXe siècle, est un mouvement intellectuel de réveil lors duquel les pays arabophones ont remis en question leur propre arriération historique et l'obscurantisme dans lequel ils étaient enfermés. En 1920, Mustafa Kemal dit Atatürk, en Turquie, a lancé une laïcisation de l'État et une soumission de la religion à l'autorité de l'État. Il a été suivi par tous les indépendantismes arabo-maghrébins, Nasser, Bourguiba, Boumédienne, l'Iskital marocain, tous ces mouvements indépendantistes refusaient le primat des religieux. Il y a un retour du religieux au pays des musulmans faute d'alternatives et de démocratie réelle. Mais l'Amérique latine et l'Afrique non musulmane, connaissent aussi un tel mouvement au nom de la chrétienté évangéliste, en compétition agressive avec le catholicisme. Ce processus a commencé aussi aux États-Unis. C'est un État laïque qui n'a inscrit « In God We Trust » sur les dollars qu'à partir de 1950 dans un climat d'anticommunisme. Durant la guerre froide contre le communisme, la CIA a utilisé les religions jusqu'à les financer, contre Nasser, contre les soviétiques en Afghanistan ou les socialistes au Chili avec Pinochet ou en Turquie avec l'AKP, mais aussi en promouvant les évangélistes contre les démocrates sur son propre territoire. Il semble qu'il y ait un retour de religion dans la politique. C'est comme une revanche. C'est une remise en cause de la laïcisation des États et de la sécularisation des sociétés. Mais ce processus se voit aussi en Inde avec le BJP hindouiste de Modi contre les minorités musulmanes, en contradiction complète avec l'esprit laïque plurireligieux revendiqué par le drapeau de l'Inde des fondateurs indépendantistes du Parti du Congrès. En Turquie, avec l'AKP d'Erdogan, quand il remet en question la sécularisation de la société par la politique du voile pour les femmes et son hystérie ottomane. Les partis religieux islamistes et Narda en Tunisie, chrétiens avec le parti de Bolsonaro, financé par l'évangéliste américain, ou le très catholique parti polonais Droit et Justice, PiS, et les partis juifs orthodoxes soutenant Netanyahou en Israël. Tout ceci participe du même processus. C'est un contrôle des conservateurs économiques sur la population. Même la Chine communiste de Xi Jinping renoue avec le taoïsme et le confucianisme pour empêcher les Chinois de se rebeller. Tout semble porter à croire qu'ils ont le vent en poupe. Mais attention, les sociétés réagissent. Bien sûr, il y a des attentats et des terroristes dans les religions, mais ce sont en fait des actes très limités. Ces actes ne concernent pas seulement les musulmans, je le répète, mais le monde entier, tant par les auteurs que dans les victimes. Souvenons-nous que les catholiques irlandais étaient en guerre avec les protestants irlandais jusqu'en 1995. Faut-il s'arc-bouter sur la loi de 1905 de la laïcité de façon rigoriste? Nos ancêtres ont déjà tranché et ouvert des voies par des actes d'acceptation tout en maintenant la loi telle qu'elle. D'autres sociétés occidentales, comme le Canada ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, j'en passe, sont plus ouvertes sur les signes extérieurs de religion dans les États. D'autres, comme l'Algérie, interdisent carrément le prosélytisme chrétien et soumettent leurs concitoyens non musulmans à des brimades. En fait, tout est une question de tolérance des États. Tout est une question des limites acceptables dans une société et par une société avec son histoire, bien sûr, mais aussi sa vision de l'avenir, ses espérances en l'avenir. D'accord ? Mais pensons seulement, une société sans spiritualité, est-ce que c'est véritablement désirable ? Staline ou Mao l'avaient fait en leur temps, Adolf Hitler l'avait voulu aussi en leur temps. L'athéisme radical n'a jamais produit non plus rien de bien. Pensons aussi, le grand penseur musulman Imrosh de Cordoue dit aussi à Véroès au Moyen-Âge, ou le chrétien Pic de la Mirandole à la Renaissance désirait déjà lier la spiritualité au progrès de la connaissance. Ne sommes-nous pas aussi intelligents que ces hommes du passé pour inventer une façon d'être entre nous beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte, quelle que soit notre confession de départ? Nous avons des questions à nous poser et des réponses à trouver. Il existe encore des Martin Luther King hein, dans toutes les religions, teintés de Jésus, de Krishna, de soufisme, post-mai 68, mais ils ne font pas le buzz, le problème c'est ça. Vous avez des religieux modernistes et pro-laïques, mais qui ne passent pas dans les médias de grande écoute, car ils n'hurlent pas, ne poussent pas au crime ou les justifient, ils ne passent pas sur le web. Ils s'adressent à l'intelligence, donc ni aux peurs ni à l'inculture. Écoutez-les sur France Culture ou le dimanche matin sur France 2, France 3. Ils ont été remplacés sur les télévisions privées et le web par des évangélistes chrétiens, reborn, ultra-conservateurs, c'est-à-dire des gens qui ont redécouvert la religion. Hein, ça, c'est reborn aux États-Unis. Cette tendance rigoriste, intolérante, se trouve dans toutes les sociétés, dans toutes les religions. Le trait commun et qu'aucune ne supporte les permissivités occidentales et les sociétés progressistes. La mixité, quelle horreur ! L'homosexualité, le mariage pour tous, on en est quand même à des opprobes, hein, je ne parle même pas des anti-avortements. La sécularisation des droits est donc un combat des laïcs sur des théologiens théocratiques et conservateurs. L'égalité homme-femme est garantie par la mise dans la sphère privée de la foi et des traditions séculaires. Ces droits ont été acquis par des femmes et des hommes autrement plus courageux que nous aujourd'hui. Les réactionnaires et les intégristes ont toujours été abjects dans leurs insultes et leurs menaces. Ils sont soutenus par des politiques aux valeurs à géométrie variable ou à l'invariable bêtise. En 1905, si la tendance Briand Jaurès l'a emporté, c'est que la République était forte et populaire. La question est désormais de trouver un sens à notre société autrement que par le calcul financier d'un budget national sous la barre des 3%. Et si notre société et nos gouvernements incluaient tout le monde dans des vies dignes au lieu de les diviser pour mieux régner et dominer indignement? Il est temps que des jours heureux reviennent, non? Je vous souhaite à tous, chers auditeurs et auditrices, de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année à tous, quelles que soient vos croyances et nos croyances. Aimez, embrassez-vous et partagez joie et espérance. Il y a de quoi croire en l'humanité. Salut et fraternité. À la rentrée, nous parlerons de l'état de Providence et je vous invite à écouter cette superbe chanson des Byrds, I Wasn't Born to Follow, tirée du film Easy Rider.
I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. White cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow.